experts en série.
Bon début d'après-midi et bon début de semaine. J'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro pour cette émission d'experts en série où j'ai dû me creuser le coco. Ouais, j'ai dû me poser quelques questions pour préparer cette émission. La première, je me suis demandé, c'est quoi la personnalité? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une personnalité, le terme personnalité? Compliqué parce que les réponses peuvent varier selon soit les écoles de pensée, soit aussi l'époque où l'on se situe. J'imagine que la personnalité dans les années 20 ou en 2013, ça ne se définit pas tout à fait par les mêmes paramètres. Mais tout de même, dans mes lectures, j'ai trouvé des informations intéressantes, c'est-à-dire des informations qui, moi, me sonnaient des cloches. Je comprenais qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire, la personnalité. Je vous lis, je vous résume ce que j'ai lu. La personnalité, c'est l'identité psychologique qui nous rend distincts, en fait, qui rend différente chaque personne. Et cette personnalité-là se développe à partir de la somme d'expériences qu'on a vécu, et ça nous influence. Hein. Et on est influencé aussi par d'autres facteurs, comme notre milieu familial, notre éducation et notre milieu social. Je ne sais pas si vous, ça, peut-être vous explique un peu mieux, ça peut être quoi la personnalité. Moi, ça me sonnait des cloches. J'ai eu aussi à me demander, pour préparer cette émission-là, qu'est-ce que ça veut dire « normal ». Être normal. Là, je vous entends déjà un petit peu grincer des dents parce que qu'est-ce qui est normal, au fond? C'est hyper dur à établir et on est qui pour dire toi, t'es normal, toi, tu l'es pas? Ouais, c'est un terme qui est assez délicat à employer. Et j'ai lu, en fait, quand on va à la racine de ce mot-là, la racine latine, ça nous explique un peu les choses. Le terme normal vient de norme. Et ça vient du latin « normand », et ça veut dire « équerre », donc une personne qui se tient bien. Hein? Vous savez, un équerre, ça rend les choses équilibrées, égales. Bon, moi, ça m'inspirait, cette définition-là. Aujourd'hui, on parle de la classification du trouble de la personnalité et la différenciation du normal et du pathologique. Hein? Un titre plutôt assez sérieux, mais on va tenter de rendre ça le plus simple possible, mais ça ne sera pas chose facile. Et j'en parlais avec mon invité, mon expert du jour, Bogdan Balan, lui qui est psychologue à la Clinique des troubles de l'humeur de l'hôpital Rivière-des-Prairies, et ce, depuis 2006. Il a obtenu son doctorat en psychologie en Roumanie. Bienvenue.
Merci.
Donc, on se le disait d'entrée de jeu, pas facile de vraiment rester simple et de démystifier parce que même les experts sur la question ne s'entendent pas.
Oui, vous avez raison. J'aimerais d'abord commencer par vous remercier de m'avoir invité. Ça a été avec grand plaisir que j'ai accepté cette invitation. C'est un sujet qui est en même temps fascinant, qui me préoccupe depuis longtemps en tant que chercheur, en tant que clinicien, mais même en tant qu'être humain, parce que, vous savez, les êtres humains, à la base, on est tous des scientifiques. On veut tous comprendre. On regarde autour de nous, puis on veut comprendre pourquoi est-ce que le soleil marche de droite à gauche ou de gauche à droite sur le ciel. Pourquoi est-ce que les pommes tombent des arbres. Puis pourquoi telle personne a fait telle chose dans une telle situation. Et ça, c'est un peu plus compliqué, vous comprenez? Et comme scientifique, ce qu'on veut faire, on essaie d'observer des régularités. On regarde, puis on voit que le soleil, chaque jour, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Parfois un peu dans certains angles, parfois à une heure différente, mais quand même, il y a une régularité et des différences. On voit que les pommes tombent toujours vers le bas, jamais vers le haut. Ce qui est comme évident, mais en même temps, c'est une observation. On n'a jamais vu une pomme tomber vers le haut. Par contre, on peut observer qu'il y a une pomme qui est plus petite et une pomme qui est plus grande. Quand elle tombe, la même branche, elle touche le sol en même temps. Ça permet à l'esprit scientifique humain de formuler certaines théories, de comprendre. C'est beaucoup plus compliqué pour l'être humain. On cherche des régularités. On cherche à voir telle personne dans telle situation, elle va réagir d'une certaine façon. Sauf que ce n'est pas toujours la même façon.
Et si on en revient à notre sujet du jour, donc les troubles de la personnalité, on se le disait tout à l'heure, pas facile vraiment de s'entendre sur les troubles de la personnalité. Aujourd'hui, on va essayer de donner de l'information, essayer de voir c'est quoi les types, c'est quoi les diagnostics, comment on peut les traiter. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, les experts, et ça vous vouliez
oui,
le mentionner,
oui,
c'est
oui,
important
oui.
pour vous, ne s'entendent pas.
C'est une mise en garde que je voulais faire dès le début. C'est que je vais essayer d'apporter ma contribution, de rendre les choses plus claires. Mais il n'y a pas longtemps, enfin au cours de la dernière décennie, un groupe d'experts, vraiment les grandes sommités de tout ce qui est santé mentale, théorie de personnalité en Amérique du Nord, qui sont réunis pour essayer de mettre au point, de clarifier, d'arriver à un consensus d'utilité pratique qui ferait partie de la nouvelle classification de troubles mentaux, le DSM-5, qui vient de paraître en mai 2013. Ça fait quelques mois seulement.
Oui, c'est ça.
Et que ces groupes d'experts, ils sont réunis pendant des années, ils ont fait des recherches exprès pour ça, et ils ne sont pas arrivés à un consensus sur beaucoup des questions que vous allez me poser.
Ouais.
Donc, si jamais à la fin, vous ou ceux qui nous écoutent sont encore plus confus, peut-être que c'est à cause aussi du fait qu'il y a une certaine confusion dans le domaine en général.
OK. On saute tout de suite dans le vif du sujet. Bogdan, qu'est-ce qui peut définir un trouble de la personnalité?
Un trouble de la personnalité, c'est une façon... Donc, tout d'abord, on s'entend que c'est une façon régulière, systématique, stable de réagir d'une personne, de réagir à certaines situations, de réagir par ses comportements, par ses pensées, par ses émotions. Donc, une personne qui réagit d'une façon qui n'est pas adéquate. Qu'est-ce que ça veut dire adéquate? On revient à l'action adéquate, normale.
Normal, oui.
Donc, quelque chose qui cause une souffrance, soit à la personne, soit aux gens autour de lui. Quelque chose qui empêche un bon fonctionnement. Bon fonctionnement défini selon les règles de la société. Parce que quelqu'un qui est très agressif, quelqu'un qui est antisocial maintenant, s'il aurait vécu dans une autre époque, probablement que ça aurait été, son comportement aurait été très adaptatif pour la situation. Mais dans l'époque actuelle, ce n'est pas fonctionnel. Donc, on dit que c'est un trouble. On dit que c'est un problème de fonctionnement qui a l'origine dans la personnalité de la personne, de cet individu. Et comment on distingue une différence de personnalité d'un trouble de personnalité? Parce qu'on est tous différents.
Ouais.
C'est ça qui fait la magie. Puis si
Puis
on était tous pareils...
tous notre caractère.
Si on était tous pareils, ça serait vraiment plate. Qu'est-ce qui fait qu'une différence de personnalité devient un trouble de personnalité? C'est quand ça fait mal, soit à nous, soit à ceux autour de nous, soit si ça nous empêche de fonctionner. Ça nous empêche de faire ce qu'on a le goût de faire. Et bon, ça doit être assez systématique, c'est pas une fois, mais beaucoup de fois. Ça doit être en lien avec ce qu'on est depuis l'enfance, puis quelque chose de stable, quelque chose qui est comme qui varie pas avec le temps. C'est ça la grande différence entre un trouble de personnalité et une maladie ou une affection transitoire.
Il y a plusieurs types de troubles de la personnalité.
Oui, là, encore une fois, une mise en garde. Le fameux comité dont je vous ai parlé, qui était réuni pour établir la classification des troubles de personnalité, il y a environ un an, ils sont arrivés avec une conclusion, avec un modèle. Avec un modèle qui éliminait complètement les catégories de troubles de personnalité.
OK.
Après ça, bon, ils ne l'ont pas éliminé complètement, ils ont gardé juste 6 sur les 10. Donc, un modèle qui voulait transformer la classification, disons, une approche catégorielle, où on a des boîtes, où on met les personnes, vers une approche dimensionnelle. On proposait un certain nombre de traits, un certain nombre de caractéristiques. Ces groupes-là ont proposé le modèle, puis il y avait beaucoup de chances, beaucoup de probabilités que ces modèles soient acceptés et qu'ils fassent partie du nouveau DSM-5. Sauf que la première ligne, les cliniciens ont réagi beaucoup, très fort, parce que ce n'était pas pratique. Au lieu de décrire par des catégories, de décrire par des axes, puis des symptômes, alors on l'a changé, et le DSM-5 maintenant, il a repris complètement la classification d'avant, en mettant cette nouvelle version dans les annexes.
Et quels sont ces 6 types qui sont restés?
Bien, je peux vous dire, les 10 qui sont restés, c'est les mêmes qu'avant.
Ah, OK.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'une décision différente aurait fait que maintenant, on n'aurait plus de troubles de personnalité. Maintenant, ça ferait partie de l'histoire de la psychiatrie, s'ils auraient décidé de garder le modèle dimensionnel. Donc, tout ça pour dire que les classification des troubles de personnalité, c'est une entente interprofessionnelle pour mettre des étiquettes sur des comportements qui se répètent ensemble. Ce n'est pas comme le diabète ou comme l'hypertension, des maladies bien définies avec...
Mais c'est pour qu'il y ait un vocabulaire commun.
Exactement, c'est fait pour pouvoir communiquer.
Ouais.
Lorsque quelqu'un parle d'un diagnostic, un autre professionnel comprend de quoi il s'agit. C'est quoi les 10 types de, disons, les 10 troubles de personnalité qui sont là depuis un bout?
Mm-hmm.
Ils sont regroupés en 3 catégories. Ce qu'on appelle les clusters en anglais, je sais pas, je pense que ça fonctionne en français aussi. Le groupe A, c'est ce qu'on appelle les excentriques, les différents, les bizarres, les odd en anglais. Ça regroupe les troubles de personnalité paranoïde, schizoïde, schizotypique. Après ça, on a les cluster B, c'est ce qu'on appelle les intenses, les dramatiques. Et là, on a l'antisocial, le trouble de personnalité borderline, le trouble de personnalité narcissique et le trouble de personnalité histrionique. Et enfin, on a le groupe C, c'est ceux qui sont plus anxieux. Et là, on a le trouble de personnalité évitant, le trouble de personnalité dépendant et le trouble de personnalité obsessif-compulsif. Chacun a des descriptions, mais je pourrais bien sûr décrire un peu de chacun. Je me demande si c'est si important que ça.
Mm-hmm. Et pourquoi vous le soulevez, ça?
Parce qu'il y a beaucoup de superpositions. Ce n'est pas pour rien qu'on voulait s'en débarrasser de ces catégories, parce qu'elles ne sont pas utiles. Enfin, elles ne sont pas utiles. Elles ne sont pas aussi utiles qu'on aimerait qu'elles soient. On aimerait que ce soit des outils qui permettent de comprendre l'être humain qui est en souffrance, de permettre de faire des modèles d'intervention adéquats. Il y a des catégories là qui sont plus ou moins basées sur des approches théoriques et moins sur l'utilité pratique. Mm-hmm. En même temps, donc c'est pas pour rien que tous ces sommités avaient décidé de complètement se débarrasser des catégories et de passer à une description plus dimensionnelle de la personnalité. Ça n'a pas marché, on reste avec ce qu'on a.
Quand, d'entrée de jeu, je parlais de ma vision, de ce que j'avais lu de la personnalité, c'est quoi la personnalité? Est-ce que vous étiez d'accord avec cette description-là?
La description que vous avez utilisée, c'était celle qui disait que la personnalité, c'est ce qui fait de nous des individus distincts, des individus uniques, des individus particuliers. Et oui, c'est une des façons de voir. Mais c'est paradoxal, on cherche à trouver qu'est-ce qui nous rend unique en nous mettant dans des catégories, en nous groupant selon les choses qu'on fait pareil. C'est une définition. Il y a, comme vous l'avez bien dit, plusieurs définitions, plusieurs façons conceptuelles de chercher c'est quoi la personnalité selon l'école, selon la période, selon les intérêts de chacun. Enfin, c'est une des visions. Mais la vision officielle utilisée dans la classification, dans les manuels de DSM, ça porte vers une structure régulière de réponses que l'individu a en lien avec l'environnement. Autrement dit, on a des sets de réactions qui se répètent régulièrement dans des situations différentes et qui sont inadéquats parce que ça nous fait souffrir ou ça fait souffrir l'autre.
Mm-hmm.
Donc, on ne cherche pas à comprendre pourquoi. Et d'ailleurs, le DSM, les classifications, ne cherchent jamais à comprendre pourquoi. Dès qu'on comprend c'est quoi la cause et les mécanismes d'un trouble de cette classification, ce n'est plus de la psychiatrie. Ça passe en neurologie, ça passe ailleurs. Donc, on ne cherche pas à comprendre pourquoi et comment, on cherche à décrire. Telle personne, dans telle situation, mm-hmm. va réagir toujours de la même façon.
Oui, je comprends. Et est-ce que ça fait longtemps qu'on parle de troubles de la personnalité? J'ai l'impression qu'on en entend de plus en plus parler. Et d'ailleurs, j'ai décidé de faire une série d'émissions sur les troubles de la personnalité pour apprendre un petit peu mieux à saisir ce que c'est. Mais est-ce qu'on parlait de troubles de la personnalité il y a 40 ans, par exemple?
On parlait de personnalité depuis ça fait partie des concepts fondamentaux. En même temps, la façon qu'on parlait avant n'est pas celle qu'on parle maintenant. Le concept de trouble de personnalité est fortement relié à l'apparition de la classification américaine des troubles mentaux. C'est, comme vous l'avez dit, un outil de communication. Dès le début, en santé mentale, les mots ne voulaient pas dire la même chose pour tout le monde. Il y avait une certaine incohérence. Le même concept voulait dire quelque chose pour un, quelque chose pour l'autre. Et alors, il y a eu un courant qui disait faire de la régularité, trouver des similitudes pour pouvoir communiquer. Et c'est là que le concept de trouble est apparu, qui n'est pas strictement limité aux personnalités. On parle de trouble anxieux, de trouble dépressif. Trouble, ça veut dire simplement, c'est un constat de manque de connaissances. On ne sait pas pourquoi ça se passe, mais ça se passe comme ça.
Oui.
Il n'y a pas d'explication. On ne connaît pas les causes exactes, on ne connaît pas le mécanisme, mais on sait que ce tableau-là, il apparaît souvent. Donc, l'idée que les gens agissent mal parce qu'ils sont construits d'une certaine façon, c'est une idée ancienne. La théorie de personnalité que je pense la plus ancienne, c'est celle d'Hippocrate avec les quatre humeurs de base. Même maintenant, on utilise des concepts comme trouble d'humeur.
Oui.
Mais l'humeur, ça vient de Hippocrate. Et il y a des termes comme mélancolique ou colérique qui viennent de là.
Et est-ce qu'il y a des gens, et ce sera ma dernière question avant la pause, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus susceptibles de développer un trouble de la personnalité au cours de leur vie?
Ça nous ramène un peu à la causalité. Puis la réponse est certainement oui. Il y a, pour la plupart des troubles de personnalité, il y a une composante héréditaire qui est mesurable à travers les études sur jumeaux. Autrement.
Ah oui.
Donc, on peut savoir, par exemple, ce qui est assez surprenant, qu'environ 50% de la variabilité de troubles de personnalité limite, environ 50% est héréditaire.
OK.
Ce qui est quand même assez étonnant.
Oui, oui. Et élevé aussi.
C'est extrêmement élevé au point où Gunderson, qui est le grand spécialiste du sujet, il nomme ça une maladie du cerveau.
OK.
Donc, vous comprenez qu'il y a un terrain, il y a toujours un terrain. Et il y a aussi l'environnement.
On prend une courte pause et puis, bon, après ces quelques minutes, on parlera justement du pathologique, du normal. On va tenter aussi de démystifier ces deux termes-là. Restez là, on revient dans quelques instants.
Nos experts sont prêts à répondre à vos questions. Pour les joindre, composez sans frais le 1-800-361-0635, poste 220. Écrivez à expertsensérie@gmail.com. Ou encore, suivez de près nos pages Facebook et Twitter. Les experts attendent vos questions.
Si vous avez des questions, suggestions, n'hésitez pas à le faire à expertsensérie@gmail.com. Vous pouvez aussi être présent sur les réseaux sociaux, oui, parce que nous, on y est et ça nous fera plaisir de vous lire autant sur Twitter et Facebook. On poursuit avec Bogdan Balan, je vous le rappelle, lui qui est psychologue à la Clinique des troubles de l'humeur et ce, à l'hôpital Rivière-des-Prairies. On parle de troubles de la personnalité. On tente, on en jase en fait, hein, parce que, et ce, on se le disait là, d'entrée de jeu, ça reste quand même nébuleux. Ça ne veut pas dire qu'après ce 30 minutes-là, vous allez vous sentir plus à l'aise de discuter de troubles de la personnalité et avoir toutes les informations requises, parce que même les experts sur la question ne s'entendent pas, mais on trouvait quand même important d'en parler, notamment parce que, et on se le disait pendant la pause, Bogdan, il y a encore beaucoup de tabous liés à la santé mentale aux maladies mentales, qu'on pourrait dire. Peut-être aussi que ça vient de ce côté-là encore mystérieux, encore du fait qu'on ne saisit pas trop, on ne comprend pas.
Oui, effectivement. Et je pense que parler de tabous lorsqu'on parle de trouble de personnalité, c'est particulièrement important. Pourquoi? Le concept de personnalité est associé à être stable, quelque chose de stable, quelque chose qui ne change pas. Avoir un diagnostic de trouble de personnalité, souvent, équivaut pour la personne qui le reçoit ou pour ceux autour, ça équivaut à avoir un handicap, une malformation. Quelque part, la personnalité est instable et ne peut pas changer, alors ça veut dire qu'on est coincé avec ça pendant toute la vie. Et parfois, les gens refusent ça. C'est plus facile parfois d'avoir une dépression ou une anxiété anxieuse plutôt que d'un trouble de personnalité. Pourquoi? On a plus d'espoir. Il y a aussi tous les côtés cachés. C'est comme... Et ça s'applique pas seulement aux troubles de personnalité, mais aux troubles de santé mentale en général. C'est que c'est, si on a ça, on est des fous, alors que c'est complètement, disons, inapproprié comme façon de le voir. Mais je peux vous dire, je vois des jeunes qui ont ce genre de diagnostic, et la plupart des cas, la chose qui fait le plus mal, c'est le fait qu'eux, ils se pensent comme fous ou comme anormaux ou comme...
Trop différents.
Différent, c'est pas suffisant. Différent, c'est correct encore. Ils sont malades, ils se pensent malades et ils se pensent anormaux, étranges. Et ça fait plus mal que le reste.
Quel conseil vous pourriez donner aux familles ou aux proches qui vivent avec quelqu'un qui a un trouble de la personnalité, vers qui on peut se tourner, qui on peut consulter pour peut-être reprendre un peu notre souffle et obtenir de l'aide et du soutien?
Évidemment, ça dépend aussi de quel type de trouble de personnalité on parle, parce qu'il y a parmi les troubles de personnalité que je viens de faire la liste, il y en a qui dérangent plus la personne, il y en a qui dérangent plus les gens autour. Ouais. Si on parle de troubles de personnalité antisociale ou paranoïde, c'est pas la personne en question qui va demander de l'aide, c'est les gens autour. Tandis que si on parle de troubles de personnalité limite ou troubles de personnalité, je sais pas, évitante, là c'est plus, ça fait mal autant à la personne qu'aux gens autour. Donc, il y a comme une façon différente d'agir selon le diagnostic, mais la clé dans tout ça, c'est d'avoir les informations, de savoir de quoi on parle, de savoir que, d'accepter la réalité, d'accepter que c'est une différence, que même si ça va rester comme ça, ça ne veut pas dire que la souffrance va rester pareille. La souffrance peut diminuer, la personne peut apprendre à gérer sa situation, il peut apprendre à faire les choses d'une manière qui fasse moins mal à elle et aux gens autour. Et bien qu'on reste avec cette différence, on peut quand même vivre d'une manière beaucoup plus heureuse que celle qui est décrite dans le trouble de personnalité. Donc, mon conseil, c'est de chercher de l'information, de chercher l'information à la bonne place.
Ouais.
Surtout, ne pas aller sur Internet pour chercher des informations d'une manière chaotique. Il y a des sites qui disent des choses vraiment horribles sur les troubles de personnalité. Il y a des stigmas qui sont associés, il y a des films qui ont été faits, qui ont créé une image un peu... comme vous avez dit, mystérieuse, quelque chose
d'erroné.
Erroné, peut-être adéquate pour certaines catégories, mais pas pour tout le monde. La personne qui est décrite dans le fameux film Borderline, c'est une personne réelle comme modèle, mais ça ne s'applique pas du tout à tous les gens qui reçoivent ce diagnostic.
Aux personnalités limites,
oui. Oui, c'est comme... aller chercher l'information, accepter la réalité. C'est comme si quelqu'un vous dirait que vous avez un diabète. Est-ce que vous allez vous cacher ça? Est-ce que vous allez vous battre? Ou est-ce que vous allez apprendre à gérer ça, puis apprendre à comment faire
Bien
une diète
sûr,
et comment s'adapter? Comment dire aux gens que si vous ne mangez pas le gâteau, ce n'est pas parce que vous lui en voulez, mais plutôt parce que vous ne pouvez pas vous faire accepter par les autres. Donc, c'est à peu près la même chose. Apprendre comment vivre avec ça plutôt que de se battre contre.
Et bon... Venons-en à comment on fait pour vivre avec un trouble de la personnalité. Ça se traite, donc il y a des traitements.
Oui, il y a des traitements et il y a de plus en plus de traitements qui sont prouvés efficaces, y compris pour des troubles qui avant Pendant longtemps, on pensait qu'il était complètement résistant, intraitable. Et maintenant, on parle de traitements prouvés efficaces au point où, là, je reviens de nouveau dans. Je m'excuse, c'est un peu mon sujet
Oui,
d'intérêt
il faut le
particulier,
dire, la
la percée
personnalité limite,
limite.
c'est votre spécialité, oui.
Oui, donc, et d'ailleurs, c'est le trouble de personnalité qui fait les plus de vagues et les plus de bruit dans le monde de la santé mentale. On parle d'un bon pronostic maintenant, d'un trouble avec un bon pronostic, ce qui est comme. C'était inconcevable il y a une dizaine d'années. Donc, il y a des traitements. Ces traitements, on a essayé de la médication. D'habitude, la médication n'est pas quelque chose à long terme, mais elle peut aider à diminuer la souffrance. Par exemple, si on a un trouble anxieux ou dépressif associé avec le trouble de personnalité limite, on peut traiter ça. Si on a un problème de sommeil très fréquemment rencontré, on peut traiter ça. Mais à la base, le traitement le plus efficace pour la plupart des troubles de personnalité, c'est la psychothérapie. Il y a plusieurs formes, plusieurs types qu'on peut, en fonction bien sûr de la situation. Il y a des troubles de personnalité qui sont assez difficiles, même avec la psychothérapie, par exemple. Un trouble de personnalité narcissique, ça pose beaucoup de problèmes parce que c'est une personne qui est, lorsqu'elle est souffrante, elle a un demande d'aide. Quand elle va bien, non. Donc, il y a la thérapie et il y a, selon moi, l'approche essentielle, c'est la psychoéducation du milieu.
Mais
Ça veut
oui.
dire savoir c'est quoi qui se passe, savoir comment réagir, comment lire la personne à côté de nous avec une grille de lecture qui est adéquate pour elle et non pas qui est bonne pour et je vais vous citer, les normaux, dans le sens statistique du terme, ceux qui sont comme les autres, plutôt.
Et là, Bogdan, je vais vous donner un défi, parce qu'il nous reste très peu de temps, 1 minute à peu près. On parle justement de normaux. C'est quoi être normaux? Et là, je fais la boucle avec notre sujet du jour et le pathologique, la différence.
Moi, j'utilise en thérapie, quand je parle avec mes patients, il y a deux concepts, deux façons de comprendre le mot normal. Il y a la norme, ça veut dire ce qui est commun, ce qui est comme les autres, et il y a le normal fonctionnel, ce qui fonctionne bien. Autrement dit, tu peux être différent, mais si tu fonctionnes bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de maladie ou de diagnostic. Tu es différent, mais tu fonctionnes bien. Donc, si tu ne souffres pas, si tu ne fais pas souffrir autour, tu peux te permettre d'être différent.
Merci beaucoup. Ça éclaire bien et ça me rassure.
J'espère avoir été un peu utile, mais bon, il faut être modeste dans nos objectifs.
Oui, et puis de toute façon, vous reviendrez. Vous serez toujours le bienvenu.
Merci beaucoup.
Demain, je parle avec Maude Desjardins, elle qui est orthophoniste. On parlera des troubles d'apprentissage avec notamment une emphase sur la dysphasie. Et puis si le sujet du jour vous a intéressé, ben, lundi prochain, je parle de la personnalité narcissique avec Monique Bessette. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était Alexandre Hamel à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye!